Vincent Bernard, bonjour.
Bonjour.
Dans la guerre de sécession, la Grande Guerre américaine 1861-1865, vous nous offrez un récit chronologique de ce conflit entre l'Union et les Confédérés. Et je voudrais débuter cet entretien par la bataille de Gettysburg. Alors, elle débute le 1er juillet 1863. Le conflit dure alors depuis 2 ans. Au nord, on va dire une certaine désillusion s'est installée face à un conflit qui se poursuit. Les troupes du sud, elles, veulent frapper fort et elles sont en Pennsylvanie, sur le territoire du nord, donc. Et au cours des semaines précédentes, elles ont enregistré une série de succès qui ont un peu déstabilisé l'armée de l'Union. La bataille de Gettysburg est restée dans la mémoire des Américains, mais aussi des étrangers. Elle va durer 3 jours. Elle va être très meurtrière. Au final, a-t-elle été un tournant?
Effectivement, elle est restée totalement emblématique du conflit, non pas par son importance stratégique, parce qu'elle ne change pas fondamentalement les données du conflit finalement, le fait que le Sud soit défait ne change pas les conditions stratégiques, mais elle est emblématique parce que c'est la plus meurtrière de la guerre, elle fait 51 000 victimes tuées, blessées et disparues sur 3 journées, et elle représente l'apogée de la menace représentée par le Sud confédéré, puisque pour la première fois, la bataille se déroule sur le territoire d'un État libre, c'est-à-dire non esclavagiste de Pennsylvanie. Donc elle est restée profondément ancrée dans les mémoires comme une sorte, non pas de tournant véritablement, mais en tout cas d'apogée du conflit.
Ce que vous montrez dans votre livre, c'est qu'entre 1861 et 1865, difficile de voir des batailles qui auront été un tournant. L'issue de la guerre a longtemps été incertaine. Les Confédérés enregistrant des victoires, alors vous nous dites surtout des victoires en été, l'armée de l'Union, elle, à l'automne.
Oui, pour simplifier un petit peu les choses, c'est un petit peu ça. Il y a un peu un va-et-vient un peu permanent. Et à l'été 63, ben, encore une fois, c'est l'apogée de la puissance du Sud qui a remporté quelques victoires spectaculaires au cours des semaines précédentes, en particulier de Chancellorsville en mai 1863. Et il se trouve que les batailles sont rarement décisives au cours de la guerre de sécession. C'est une guerre de longue haleine où la machine de guerre sudiste, du fait de sa faiblesse démographique et industrielle, va peu à peu s'épuiser, mais sans qu'une bataille proprement dite puisse être considérée comme absolument décisive. En même moment où se déroule la bataille de Gettysburg, comment dire, la victoire la plus stratégiquement significative pour le Nord, elle se déroule plutôt à Vicksburg, sur le fleuve Mississippi, dont s'empare le général Grant au même moment, et qui coupe la Confédération en deux. Donc si on cherche un tournant stratégique à ce moment-là, ce serait plutôt du côté de Vicksburg que de Gettysburg.
Et d'ailleurs, ça permet de préciser qu'on oublie parfois que la guerre de sécession a aussi été une guerre navale. Alors revenons à Gettysburg, puisque le 19 novembre 1863, Abraham Lincoln prononce son discours, le célèbre discours où il décrit la guerre civile comme une guerre pour la liberté, l'égalité et contre l'esclavage. Vous le signalez dans votre livre, il n'y a pas de soldats noirs sur le champ de bataille de Gettysburg, mais c'est pourtant 1863 où le Nord va décider de libérer les esclaves et de les enrôler. Vous parlez de la grande décision de 1863. C'est un point de bascule dans ce conflit?
Oui, parce que l'origine du conflit et ses premiers mois, ses premières années sont assez ambiguës en termes d'objectifs. Le premier objectif de Lincoln, c'était d'abord de conserver l'Union unie. Et à partir de 1863, on bascule dans une logique d'abolition et on commence à recruter. Alors, il n'y en a pas à Gettysburg, mais on commence au Nord à recruter massivement des soldats noirs, alors qu'ils soient libres du Nord ou des esclaves qui se sont échappés des plantations du Sud. Et donc, il y a un tournant, j'allais dire, moral, politique, et même idéologique à ce moment-là. Et le discours de Gettysburg en novembre 1863 sur le champ de bataille de l'été est emblématique de ce basculement et de cette refondation finalement de la République américaine. C'est un discours qui va rester comme l'un des discours politiques les plus importants de toute l'histoire des États-Unis.
Donc la guerre de sécession, guerre pour l'abolition, ce n'était pas le motif du début de cette guerre.
Alors, c'était la toile de fond, parce qu'il n'y aurait pas eu de guerre sans l'esclavage, c'est-à-dire le fait que le Nord et le Sud soient autant partis sur des trajectoires divergentes s'explique par la présence de l'esclavage au Sud et la permanence de l'esclavage au Sud. Mais les objectifs de guerre sont beaucoup plus ambigus au début de la guerre. Ce tournant abolitionniste n'est pris qu'au milieu du conflit, à partir du moment où Lincoln est assuré de son assise politique dans les États du Nord et dans quelques États esclavagistes qui sont restés fidèles à l'Union, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est un paramètre important, et à partir de ce moment-là, effectivement, l'abolition de l'esclavage devient un objectif de guerre. Il va se tenir contre vents et marées jusqu'à la fin.
Rapidement, la légende veut que des Noirs se soient battus volontairement au sud. Qu'en est-il?
C'est une légende. Alors, on ne peut pas exclure quelques cas individuels ponctuels, mais la documentation n'en montre absolument rien. Ce qui est vrai, c'est qu'à l'extrême fin de la guerre, certains sudistes, en désespoir de cause, commencent à évoquer le fait de libérer les esclaves pour les enrôler dans leurs armées, tout ça pour préserver l'indépendance. Mais c'est un phénomène extrêmement tardif, qui prend la société sudiste d'ailleurs à rebrousse-poil, donc qui ne va pas très très loin, et qui n'aboutit qu'à très très peu de choses. Donc, pour la quasi-totalité de la guerre, c'est absolument fou. Il n'y a pas eu d'unité militaire formée d'esclaves ou d'anciens esclaves dans les rangs du Sud.
Parlons du Sud, justement. Quelles étaient les ambitions du Sud? Le Sud pouvait-il gagner la guerre?
Alors, une question assez complexe, mais les objectifs du Sud ne sont pas d'envahir le Nord, ils sont simplement de se défendre et d'obtenir leur reconnaissance et leur indépendance. Donc, on peut imaginer, et c'est ce qu'espèrent les sudistes, de lasser suffisamment le Nord ou de créer au Nord une crise politique suffisamment importante pour obtenir une paix de compromis. En ce sens, il y a eu un certain nombre de jalons au cours de la guerre où ils ont pu espérer, par exemple, la réélection d'Abraham Lincoln en novembre 1864, qui n'est pas gagnée d'avance. Finalement, il est vainqueur, mais il craint longtemps d'être battu, et ça aurait pu donner une crise politique assez importante pour laisser espérer au Sud une forme ou une autre de compromis.
Le bilan de cette guerre, donc on a eu 4 années de conflit, il va y avoir 3 millions de combattants, 750 000, voire 850 000 morts, dites-vous dans votre livre. Terrible guerre, hein. Vous donnez le chiffre de 500 morts par jour pendant 1500 jours.
C'est ça. Il faut retenir qu'on est à l'échelle des États-Unis, mais de l'époque, c'est-à-dire c'est un pays d'un peu plus de 30 millions d'habitants. 3 millions de combattants, ça veut dire un individu sur 10 mobilisé dans les rangs. Effectivement, 750 000 morts. C'est pas tout à fait les standards de la Première Guerre mondiale. On est encore un petit peu en dessous, mais on y est presque. Et c'est de très loin la guerre la plus meurtrière sur le sol états-unien de toute son histoire.
C'est le Nord qui va l'emporter en 1865. Les termes de la capitulation sont généreux à l'égard des vaincus, retour à la maison, libérés sur parole, les officiers gardent leurs armes. On comprend bien que c'était l'étape vers la réconciliation entre le Sud et le Nord. Aucun dirigeant sudiste ne sera jugé, mais a posteriori, cette mansuétude avait pour but de permettre la réconciliation, mais elle a aussi permis l'émergence de deux narratifs et le Sud de magnifier son combat et ses valeurs.
Oui, d'une certaine façon. Alors ça se passe sur plusieurs décennies, hein, c'est un processus complexe. Ça commence avec la reconstruction, qui est effectivement une période d'émancipation ratée dans le sens où les Afro-Américains ne parviendront pas finalement à accéder à un véritable statut de citoyen, puisque les sudistes conservateurs vont s'arranger pour mettre en place la ségrégation raciale. Et effectivement, il y a deux récits qui vont s'installer, le récit de l'Union abolitionniste, le récit du Sud néo-confédéré, considérant on s'est bien battu et pour une bonne cause. Et en réalité, oui, c'est quelque chose de beaucoup plus ambigu et qui a encore des répercussions, encore aujourd'hui, dans la politique américaine et dans les consciences américaines.
Ouais, le mythe de la cause perdue.
C'est ça, qui s'est manifesté de différentes façons. Finalement, ce sont deux récits, celui du Nord et du Sud, qui se sont réconciliés un petit peu sur le dos de la mémoire des Afro-Américains, laquelle a réémergé surtout ces dernières décennies, ces dernières années, et a pris la place importante qu'elle a aujourd'hui dans le narratif de la guerre.
Et alors, quelque chose que j'ai découvert dans votre livre, donc on comprend que le Nord voulait un nouveau monde, une union unie, indivisible, et c'est donc avec la guerre de sécession que l'on passe de United States à United States is.
Oui, précisément, c'est une conception de l'Union américaine qui était encore très discutée avant la guerre, en particulier la place et l'autonomie des différents États. Et c'est finalement quelque chose qui est réglé avec la guerre, puisque l'État fédéral prend une importance encore inimaginable auparavant, après la guerre. Et les États-Unis modernes se construisent véritablement sur les cendres de la guerre de sécession et sur la défaite du Sud.
Merci beaucoup, Vincent Bernard.
Mais c'est moi qui vous remercie.